Alors voilà, sans tarder, je vais donc passer la parole à Claude Rollin, qui va nous parler de cette nouvelle stratégie européenne pour les compétences.
Ok, merci et merci pour l'invitation. Tout d'abord, effectivement, en vous priant de m'excuser, parce que c'est pas très décent de faire ce que je vais faire aujourd'hui, de parler puis de me sauver. Mais dans les faits, j'ai une réunion après... importantes, elles sont toutes importantes, mais sur la directive détachement, et je pense que c'est un endroit où je ne peux pas ne pas être et me permettre de ne pas y être pour les raisons que vous imaginez. Peut-être un tout petit correctif quand même sur ma présentation, c'est vrai, et pour moi c'est quelque chose, des institutions, une démarche en tous les cas, à laquelle je serai éternellement redevable, c'est effectivement l'ISCO et la FOPES. Si je n'avais pas sur mon chemin croisé l'ISCO et la FOPES, je ne serais certainement pas ici devant vous aujourd'hui. Mais vous dire, et ça a un lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, vous dire quand même que je considère que je suis d'abord et avant tout un pur produit de l'échec et de l'exclusion scolaire. Alors je m'en sors bien, donc vraiment pas de souci par rapport à ça, mais j'aime à le dire quand on a ce type de discussion, et notamment par rapport à un outil comme lire et écrire, que même quand on s'en sort bien de ce parcours d'exclusion, parce qu'on a beaucoup de chance et bon, que les vents tournent bien, on va le dire comme ça, ça laisse des cicatrices. Et les cicatrices, quand on se casse la jambe, on sent les changements de temps, mais ces cicatrices-là, elles restent toujours. Ce qui veut dire que d'abord et avant tout, si on veut travailler sur les qualifications, sur l'intégration des gens, sur l'insertion, c'est dès le départ qu'il faut arrêter, permettez-moi l'expression, de faire les cons, et qu'on doit sortir de ces systèmes qui créent, sans la volonté des acteurs, mais qui créent des victimes. Et après, quand il faut traiter tout cela, ça demande nettement plus de moyens que si les dégâts n'avaient pas été traités au départ. Alors, la nouvelle stratégie européenne des compétences, je trouve... Comme beaucoup de papiers qui sortent de la Commission, je trouve qu'on a là des choses très intéressantes et que moi je veux appuyer comme démarche. On va seulement rentrer dedans au niveau du Parlement européen, donc aujourd'hui on a la communication qui est faite et on va commencer en commission, en tous les cas en commission emploi, à travailler sur ce dossier. Je ne sais pas d'ailleurs... jusqu'où je serai impliqué dans ce dossier. J'ai postulé, parce qu'on postule pour ce genre de choses, pour être shadow rapporteur de ce dossier. J'espère que je le serai, mais on verra bien. Et de toute façon, même si je ne le suis pas, ça devrait travailler avec d'autres collègues. Et ça peut fonctionner en tous les cas dans le Parlement européen. Alors la communication, elle part d'abord d'un constat, le constat de la réalité aujourd'hui, le constat du chômage, qui reste un chômage terriblement massif. Le fait aussi que ce chômage concerne plus particulièrement les jeunes que les autres, même si on a des ambitions au travers de différentes stratégies, justement, de réduire ce chômage, de réduire en particulier le chômage sur les publics qu'on dit les plus défavorisés, qui sont les plus défavorisés, on constate que les résultats sont loin, loin des ambitions. De faire le constat que parmi le public européen, les qualifications restent un problème, le niveau d'éducation reste un problème. C'est 65 millions de personnes entre 25 et 64 ans qui aujourd'hui n'ont pas dépassé le premier cycle d'enseignement secondaire. Donc c'est dire si on a encore du travail à faire par rapport aux objectifs, notamment d'Europe 2020. On a aussi, par rapport au métier, les compétences sont alliées au métier, des évolutions très très rapides. On est dans une période où le monde économique, le monde des métiers, le monde du travail évolue à une vitesse VV'. Si on regarde simplement l'influence de la digitalisation, les nouveaux métiers qui se créent sont aujourd'hui dans ces métiers de la digitalisation, du numérique, qui font appel à de nouvelles compétences, d'où l'intérêt pour la Commission de mettre ça en avant dans sa stratégie. Lire-écrire, c'est l'outil justement des corrections, c'est un outil en tous les cas des corrections par rapport à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais on sait aujourd'hui qu'on reste dans des situations, et ce n'est pas à lire écrit que je dois l'expliquer, mais où le problème de l'analphabétisme, qu'on peut graduer de différentes façons, mais d'une réalité d'analphabétisme, y compris pour des gens qui sortent de l'enseignement, avec un certain parcours d'enseignement, reste une réalité importante et reste un frein total à l'accès à l'emploi. Enfin, pas qu'à l'accès à l'emploi, mais notamment, si je prends ce prisme-là, reste un frein total par rapport à l'accès à l'emploi. Alors, on a en plus une situation très contradictoire. D'un côté, on reste dans un chômage de masse, avec un chômage donc très, trop important. Et en même temps, on entend des entreprises et des secteurs professionnels l'expression de pénurie. Alors, ces pénuries qui nous sont montrées, je n'ai pas le temps et c'est pas le propos, analyser les causes, elles sont multifactorielles. Il y a notamment les conditions de travail qui sont des éléments explicatifs en tous les cas de certaines pénuries. Il y a aussi l'image de toute une série de métiers, en particulier les métiers professionnels. On a un réel problème en la matière où les métiers professionnels, les métiers manuels sont vus comme étant négatifs. Et ça, c'est une réelle catastrophe. Et certains encore plus négatifs que d'autres. Aujourd'hui, on n'a plus un jeune alors qu'il y a du boulot, pas dans des conditions faciles dans le secteur, mais par exemple dans le secteur de la viande, parce que c'est une image qui est devenue très très mauvaise. Mais donc, et c'est un constat que la commission fait dans sa communication, qu'il faut remédier à cela. On est essentiellement, et on le voit notamment en Belgique, en communauté française ou autre, dans des enseignements où on travaille dans une logique de relégation dans les faits. C'est-à-dire que le parcours voulu par la plupart des parents, c'est un parcours qui peut conduire à l'université. Et quand on va vers les métiers techniques et professionnels, on va vers une dégradation. C'est-à-dire on va vers ces métiers-là quand on est considéré comme n'ayant pas la capacité d'aller vers d'autres types de formation. Je vais y revenir après. Quand on parle de compétences, on parle essentiellement diplôme ou certificat. Diplôme ou certificat qui sont acquis dans des parcours de type scolaire ou de formation classique. Alors que les compétences, c'est aussi ce qui est acquis dans la pratique, dans la vie, dans l'expérience des uns et des autres. Alors ce que je voudrais évoquer rapidement, c'est quand même quelques éléments. Je ne vais pas rentrer dans la communication parce que ça serait beaucoup plus long. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans la communication qui nous est faite aujourd'hui? C'est une petite dizaine d'axes. C'est d'une part avoir une garantie de compétences pour aider les adultes les peu qualifiés à acquérir un niveau minimal en lecture, en écriture, en calcul et dans des compétences numériques. C'est un cadre européen de certification. On sait à quel point on est dans une jungle en termes de certification, avec des flous, avec aussi des questions de reconnaissance de compétences. Par ma pratique, en tous les cas, par mon vécu comme habitant en province de Luxembourg, mais aussi comme ma pratique de responsable syndical, quand j'étais responsable en province de Luxembourg, j'ai pu voir à quel point, sur un espace, simplement un espace transfrontalier, je ne suis pas sur l'Union européenne, je suis un bête espace où... À 20 km l'un de l'autre, on a la France, on a le Grand-Duché de Luxembourg, mais on voit à quel point on a encore un progrès important à faire. Ici, y compris malgré des outils comme Eures, qui sont des outils importants, on a encore des problèmes en termes de correspondance entre l'offre et la demande au niveau des emplois au travers d'une frontière, et frontière qui sépare des lieux de vie qui sont des lieux de vie traditionnels. C'est tout l'enjeu du numérique. Donc la commission met très en avant cette nécessité d'unir les moyens, en tous les cas, pour avancer dans les compétences par rapport aux emplois du futur, qui sont les emplois, que sont notamment les emplois du numérique. C'est tout l'enjeu du sectoriel. Et là, les partenaires sociaux ont un rôle particulier à jouer, l'enjeu sectoriel par rapport aux enjeux de compétences. C'est l'enjeu par rapport aux pays autres. C'est la révision d'Europass. Europass, je trouve, est un système, est quelque chose qui est intéressant, qui permet à certains jeunes, moi j'en ai vu à plusieurs reprises, de reprendre une énergie vraiment super au travers de ce parcours qui est une certification faible quand même, il faut le reconnaître, mais ça allez, ça reboote des jeunes qui sans ça n'auraient pas cette, cette dynamique-là. Et c'est aussi tout le suivi des diplômes et des diplômés. Donc on voit, on a un menu qui est très, très large. Mais je voudrais, au travers de ce menu, quand même pointer quelques éléments. C'est dit dans les textes qui nous sont proposés l'importance de la reconnaissance de toutes les autres formes d'apprentissage, tout ce qui est le formel, l'informel, aussi l'acquisition dans le volontariat, l'acquisition de compétences dans des expériences de volontariat. La semaine prochaine, on est à Strasbourg en session plénière, on aura un échange à l'entour d'une question parlementaire sur justement la possibilité d'intégrer les compétences acquises par notamment des jeunes dans le cadre de volontariat. Il y a l'accent qui est mis, mais qui doit, à mes yeux, et là je vais au-delà, enfin déjà dans ce qu'on va pouvoir rentrer comme amendement sur ce document, on ne met pas assez le focus sur les publics qui sont les plus éloignés de l'emploi avec les difficultés que ça relève. On ne met pas non plus assez, me semble-t-il, dans cette communication de la Commission, en avant l'enjeu principal. On parle des institutions, on parle des politiques à mener, mais on parle finalement très peu de celles et ceux qui sont la cible de ces politiques, c'est-à-dire les jeunes, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de boulot. Je pense que l'ensemble des dispositifs, et moi c'est ma conviction, doivent d'abord être centrés sur la personne et pas sur les institutions, même si elles ont leur importance. On évoque, et et je trouve que c'est à souligner positivement, il y a deux paragraphes en tous les cas dans la communication qui évoquent la nécessité d'aller plus loin sur les mécanismes d'apprentissage au travers de l'alternance. On est avec quelques députés de groupes politiques différents aujourd'hui fort impliqués dans la volonté de mettre en place quelque chose qui devrait demain ressembler au système Erasmus. Hein, Erasmus, c'est une réussite de l'Union européenne, ça fonctionne en termes de qualification d'apprentissage, ça fonctionne aussi parce que ça crée des Européens, les jeunes qui sont en Erasmus généralement reviennent différemment au travers de ce parcours d'Erasmus. Mais la volonté, c'est s'inspirer de quelque chose, et j'ai jamais été pour les modèles, mais parce qu'on a, dans le modèle allemand, il y a au moins quelque chose qui fonctionne bien, c'est la formation duale, c'est l'alternance, et bien c'est de développer au niveau européen l'équivalent de ce qu'on a en Erasmus aujourd'hui, mais sur la formation en alternance, sur des temps longs, permettre à des jeunes de faire une expérience professionnelle dans le cadre de l'alternance pendant 5-6 mois dans un autre pays. Aujourd'hui, on a lancé ce mois-ci une première expérience pilote qui reste limitée, c'est une expérience pilote, mais on a déjà des engagements de la Commission de financer, après l'expérience pilote, un élargissement de ce dispositif, et dans la communication de la Commission, on a là des éléments tout à fait pertinents et qui nous poussent à penser, en tous les cas, qu'on va pouvoir continuer dans ce mécanisme-là. Alors ce mécanisme-là, je ne vais pas non plus le développer ici, ça prendrait trop de temps, mais n'hésitez pas, je peux vous envoyer les informations sur ce que l'on est en train de mettre en place. Il est loin d'être parfait, on est en train de tâtonner dans la mise en place. Par exemple, un des défauts du mécanisme qui est en expérimentation aujourd'hui, c'est que ça s'adresse encore trop à des publics privilégiés, c'est-à-dire que pour faire de la formation d'alternance dans un autre pays, il y a par exemple des acquis en termes linguistiques qui sont nécessaires. On voit tout de suite que ça est un frein par rapport aux catégories les plus éloignées de l'emploi. Aussi, le fait de partir à l'étranger pendant 6 mois, c'est pas évident. Le type d'entreprise qui peut accéder aujourd'hui à cette expérience est limité parce qu'il faut des entreprises qui peuvent aussi dégager des moyens là-dedans. Mais malgré toutes les critiques qu'on peut faire, je pense qu'on est là sur un filon qu'il faut absolument exploiter et qui me paraît tout à fait pertinent et qui, dans un deuxième temps, devra pouvoir répondre aux critiques que je viens d'évoquer. Donc voilà essentiellement les choses que je souhaitais communiquer par rapport à cette communication qui nous est présentée aujourd'hui. Je termine quand même avec trois éléments que je voudrais dire en termes de conclusion. Rappeler un que j'ai cité, la philosophie centrale de tout ce qu'on doit mettre en œuvre en la matière, c'est le bénéficiaire. C'est vers le bénéficiaire d'abord et avant tout, enfin c'est en direction du bénéficiaire avant tout qu'il faut concevoir les dispositifs que l'on met en route. Le deuxième élément qui me paraît est essentiel, je viens de le dire, c'est toute la problématique et toute la question de l'alternance. Et le troisième élément, on est là sur un dossier sur lequel les partenaires sociaux, les représentants des organisations syndicales, les représentants des organisations patronales, doivent absolument prendre leur part, être associés au plus profond. Les compétences sont des enjeux qui sont liés à l'entreprise. Celles et ceux qui connaissent le mieux la réalité de l'entreprise, ce sont les acteurs de l'entreprise, le patronat, les représentants des travailleurs salariés. Et Jean-Claude Juncker a dit plusieurs fois, comme président de la commission, qui voulait être le président de la commission qui allait relancer le dialogue social européen, qui ne se porte pas bien à mes yeux. C'est peut-être, ou ça doit être, cet enjeu-là, un enjeu tout à fait concret sur lequel les partenaires sociaux européens devraient pouvoir trouver un accord, puisqu'ils partent des mêmes constats, ils font les mêmes analyses. Et en termes d'acteurs, il est essentiel aussi que les dispositifs qu'on met en place soient des dispositifs qui, dans leur conception, dans leur construction, intègrent directement les opérateurs, les gens qui ont au quotidien travaillent sur ces matières, qui au quotidien sont en face des problèmes et qui sont les seuls finalement à avoir la capacité d'imaginer les solutions, les méthodes qui vont permettre de sortir des impasses dans lesquelles nous sommes. Voilà.
Merci Guy. Alors Claude, excuse-moi, décidément.
Guy, c'est à l'autre.
Je laisserai la parole à Claude après. On ne va pas te laisser partir tout de suite, et puisqu'on n'a pas l'occasion d'avoir ce débat croisé et qu'il nous reste quand même quelques minutes, je vais te proposer à Guy de relancer quelques questions, mais qui étaient déjà en réflexion au sein de Lire et Écrire. Voilà, je t'en prie.
Je dois dire merci Arthur. Bon, évidemment, réagir sur la politique européenne, bon, la présentation est assez succincte et il y a, tu ouvres plein de portes, plein de champs de discussion en terminant par exemple par le dialogue social. Évidemment, le dialogue social au niveau européen et l'implication des interlocuteurs sociaux est pour nous essentiel, mais le chemin est quand même assez laborieux. Et moi, je suis un peu terre à terre, évidemment, donc je ne décolle pas souvent du plancher de Bruxelles. J'essaye d'envisager des choses au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais si je vois au niveau de la Belgique, ne fût-ce que l'engagement qu'ont pris le banc patronal en matière de formation, on peut qu'être en interrogation. Hein, je veux dire, il y a des accords et il y a des directives européennes sur des efforts de formation au niveau des entreprises qui sont loin d'être atteints. Donc c'est difficile, mais voilà. Donc on a l'avantage, en tout cas à Bruxelles et en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, d'avoir des exécutifs qui ont le réflexe aujourd'hui d'ouvrir des champs de concertation sociale entre patrons et syndicats sur ce champ. Mais je veux dire, c'est parfois difficile pour nous de trouver un levier pour amener des changements dans les pratiques de formation. Donc, et si je pars de là, et je fais une réflexion sur les pénuries, évidemment, il y a un défi colossal de formation et on doit évidemment former, proposer à tout un chacun la plus possible de possibilités de se former tout au long de sa vie. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de... Mais le banc patronal a un peu le réflexe facile de dire tout le problème est la formation. Je veux dire, alors, VAIC, c'est sur la formation langue, par exemple. C'est vraiment la tasse de thé, ici. Tous les problèmes bruxellois sont quasiment résumés. Mais ça ne se pose aucun problème pour aller chercher des Roumains ou des Polonais ou d'aller même plus largement du côté de l'Amérique ou enfin de puiser dans une main-d'œuvre certes qualifiée, mais qui, effectivement, en tout cas, n'a certainement pas la maîtrise des langues nationales. Donc la question des pénuries, c'est un vrai débat justement qui doit être pris au niveau du dialogue social et on doit faire dans les, et ça c'est un enjeu régional. Je ne sais pas si l'Europe peut. Voilà. Alors une autre chose, peut-être pour pas enfin, on aura l'occasion, je suppose, après de revenir sur une série de choses après. Ouais, Marie.
C'est moi.
Marie, hein. Oui, je suis pas de doute, mais tout d'un coup, après Arthur, je ne sais plus moi. Donc. Moi, quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans la communication dont tu fais écho et qui effectivement, j'ai déjà pu en lire là-dessus, c'est cette fameuse garantie compétence, enfin, je sais pas comment l'appeler, et qui part de la garantie pour la jeunesse. De manière tout à fait, peut-être pour certains, surprenante, au niveau de mon organisation et au niveau de m'y réécrire. Ben, moi, j'ai défendu, en tout cas, au niveau de l'écrit, et voilà, tiens, une fameuse opportunité, peut-être, de sortir par le haut de ce que l'Europe nous a un petit peu mis en œuvre, qu'on appelle l'État social actif. On a aussi travaillé un beau temps, dans les années 2000, sur ce projet d'État social actif. On a tous eu un rapport ambigu avec ce projet, parce qu'autant la formation autour de la vie, ou l'aide et la guidance aux chercheurs d'emploi, leur proposer des formations, un accompagnement individuel, ben, qui peut être là, qui peut aller contre cela. Mais quand ça tourne, à ce que ça tourne aujourd'hui, on en est effaré du côté absurde. Donc c'est ce travail que l'Irécrire a fait depuis quelques années, assez remarquable, de démontrer le côté absurde, anomique, enfin, qui crée vraiment des problèmes de sens et une sorte de violence sociale par rapport à une série de gens qui ne demandent pas mieux que d'être formés et de trouver du boulot. Mais la manière dont ces politiques d'activation sont implémentées massivement. Et la garantie pour la jeunesse a été reçue comme une manière peut-être de changer le paradigme. C'est-à-dire, on demande aux travailleurs sans emploi de faire des efforts, mais c'est d'abord à la collectivité de leur proposer quelque chose, un chemin, un vrai chemin. Et pas, alors, le problème, c'est que, là, on est un peu dans les stages, hein, donc, le chemin, il est parfois un peu détourné, hein. On passe par un stage, puis une FPI, puis voilà, bon. Enfin. L'intention nous a paru, et donc en tout cas la FGTB, je pense que la CEC, au niveau de nos instances de gestion paritaire, d'actérisme, de formation, forum, on a été au rendez-vous de ce challenge. On voit maintenant que la Commission veut généraliser ça au-delà de la... Enfin, donc ça, de nouveau, je pense qu'on de prime abord, on va dire, ah, ça c'est intéressant de... Maintenant, le problème, c'est que j'entends, et je voudrais peut-être juste avoir une première réaction là-dessus, que c'est plutôt sur... des socles de compétences. Est-ce que ça va être lié, est-ce que ça va rentrer dans cette machinerie qu'on appelle l'activation? Est-ce qu'on va avoir une espèce qu'on appelle à Bruxelles l'ingbürgering, le parcours de l'accueil des primo-arrivants, ou quelque part, là c'est des franges adultes très marginales, enfin de nouveaux migrants qu'on met dans des processus accélérés, alors de français langue étrangère, et puis voilà. Est-ce que et là on sent de nouveau le côté caricatural, quoi, presque ubuesque, kafkaïen de ces processus, et on se prend à lire écrit beaucoup la tête sur le fleu alpha fleu, la fapa fleu, moi je suis un peu perdu, mais les collègues sont plus sur la balle que moi, mais on voit bien que on est dans de la machinerie là et qu'on perd le sens du vécu et du travail éducatif. Et je terminerai juste, dans le mot compétence, il y a aussi un malaise, quoi. Et des savoirs, et des savoir-faire, des savoir-être. Et on a un peu l'impression que la politique des compétences, c'est dans une logique de performance, c'est pas dans une logique d'abord éducative et émancipatrice. Et qui est notre core business, hein. Donc, lire et écrire, on est avant tout un projet, et je terminerai vraiment par là. Moi, si je suis rentré, quand je suis rentré à lire et écrire, je dis, ben oui, c'est vraiment le lieu où on va pouvoir interroger la formation tout au long de la vie à partir du plus bas de l'échelon et du niveau zéro, enfin, pas zéro, c'est pas ça que je veux dire, mais le niveau très bas de l'échelle, avec l'ambition d'aller y compris jusqu'à l'université ouverte, que ce soit du côté de la FOPES, parce qu'on a parlé, ou que ce soit d'autres projets dans d'autres sphères. Voilà, donc un peu une question, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette garantie de compétences?
Donc,
plusieurs éléments hein, de réaction rapide par rapport à ce que tu dis. D'abord sur le dialogue social. Hein. Donc, je partage ton analyse sur la difficulté du monde patronal de prendre et d'assumer plutôt ses responsabilités en la matière et de considérer d'abord que l'école doit fournir des colis tout prêts, hein, si je peux me permettre l'expression, par rapport aux besoins de l'entreprise, sans tenir compte que les besoins de l'entreprise évoluent de plus en plus rapidement. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait contradictoire. Je pense quand même qu'il y a des choses intéressantes. Je connais moins au niveau de Bruxelles. Quand je vais au niveau wallon, au travers du comité économique et social wallon, je trouve qu'il me semble qu'il y a des bonnes directions qui sont prises en la matière. Il faudrait que ça se traduise concrètement dans les secteurs directement. Et dans les secteurs, on a, moi j'ai eu l'habitude en tous les cas de rencontrer ce problème-là, une démarche habituelle des entreprises d'être d'accord sur le débat général, je veux dire quasi intellectuel par rapport aux enjeux de la formation, mais dès qu'on arrive sur le concret, on est dans une logique individuelle où, et je l'ai constaté à beaucoup de reprises, des employeurs disant même clairement, je vais quand même pas prendre du temps et des moyens pour former quelqu'un quand il va être formé, il va partir autre part. Enfin, on est dans des logiques de court terme et hyper individualistes qui sont collectivement suicidaires pour l'ensemble des entreprises. Il y a un deuxième élément de responsabilité, quand même, je le dis à l'aise puisque je ne suis plus en responsabilité syndicale, il y a aussi une responsabilité des organisations syndicales en la matière. Et je peux vous dire, et c'est pas de la méchanceté ni des règlements de compte, je n'en ai pas à rendre, j'ai pas de problème par rapport à ça, mais j'ai pu constater que au cœur des entreprises, au moment où on négocie les conventions collectives, au moment où on négocie les conventions sectorielles, y compris sur la part syndicale, nous avons quand même souvent des difficultés à mettre ces enjeux de la formation sur le terrain. Et moi, il m'est arrivé de me faire dézinguer un peu médiatiquement à un moment notamment, parce qu'avant un accord interprofessionnel, pour essayer de me faire comprendre, j'avais donné l'exemple en disant... On va pas trop s'emmerder à négocier une marge salariale de 0,2 ou de 0,4%, puisqu'on est dans ces eaux-là, mettons plutôt comme priorité de négocier sur les enjeux de la formation. Je m'étais un peu fait tourner en disant que je voulais lâcher les enjeux salariaux en la matière. Je pense pas, parce que je suis convaincu qu'y compris au travers de la formation, les enjeux salariaux se jouent simplement au niveau de la hiérarchie des fonctions et des salaires. Et donc, il y a aussi... Enfin, je pense que nous devons ensemble hein, aussi faire en sorte que le monde syndical, et quand je dis le monde syndical, surtout plus profond de l'entreprise et des secteurs, c'est là que ça joue, soit plus conscient de la priorité qu'il faut mettre sur ces enjeux-là. Sur les pénuries, je ne vais pas revenir sur ce que tu dis, je partage tout à fait. Pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait au lance-pierre pour aller vite, mais qu'on ne peut pas résumer la question des pénuries sur la question de la formation et des qualifications. Il y a toute une série d'autres éléments qui jouent. Il y a quand même, néanmoins, il ne faut pas les éviter, aussi des problèmes qui existent en termes de qualification. Enfin, sur la garantie des compétences. La garantie jeunesse, avec toutes ses limites, je trouve effectivement que c'est quelque chose qu'il nous faut renforcer. C'est un outil que nous avons là. Ça fonctionne. De nouveau, ça ne crée pas l'emploi à durée indéterminée comme on le voudrait, mais je trouve qu'on a là une filière qui s'ouvre, qui est une filière qui est pertinente et qui doit surtout être renforcée. Alors c'est clair que sur la garantie des compétences, et quand on lit le texte, en tous les cas au stade où ça est aujourd'hui, on voit qu'effectivement la logique de parcours dans un sens d'état social actif, dans le sens de mettre, d'individualiser la responsabilité de la situation de chômage ou de non-emploi, ou de manque de qualification, est quelque chose qui est, à ce stade-ci, moi je le retrouve dans des lignes du texte aujourd'hui, et ça va faire partie du débat qu'on va avoir, du rôle du Parlement, en tous les cas, de modifier le texte dans ce sens-là. Mais l'idée, le concept de garantie des compétences doit être poussé. Maintenant, tout ce qu'on met là-dedans, et le groupe politique dans lequel j'ai le plaisir et que je vais avoir le plaisir tout à l'heure de m'amuser joyeusement a du mal avec ça, mais je le dis à l'aise, il y en a d'autres hein, ceci dit, pas le tien Marie, mais il y en a d'autres, assurez-vous, malheureusement c'est pas pour nous rassurer, a vraiment du mal de mettre en adéquation des besoins que l'on a pour relancer la société dans le sens d'une cohésion sociale et d'une relance de l'économie, et le fait que pour faire ça, il faut modifier et des politiques économiques et des politiques industrielles, parce qu'on peut, je veux dire, en matière de formation des chômeurs, moi j'ai beaucoup travaillé sur la formation des chômeurs, mais la formation de gens qui sont sans emploi, si on ne bouge rien d'autre par ailleurs, c'est un peu comme si on forme 50 personnes sur le trottoir pour qu'ils soient les plus efficients possibles pour monter dans un bus, mais qu'il n'y a que 50 places dans le bus et qu'il y a déjà 50 personnes. Les miens que j'ai formés vont peut-être, avec grâce à moi, parvenir à rentrer dans le bus, mais ça veut dire que par la porte arrière, il y en a 50 autres qui vont sortir. Donc on n'aura rien changé à la problématique. Et le dernier élément, c'est qu'il faut qu'on accepte, qu'on décide de consacrer des moyens à cela. Aujourd'hui, si je vois les fonds structurels, notamment le Fonds social européen, on reprend toute une série d'initiatives nouvelles, et il faut le faire, parce qu'il y a des nouvelles priorités, enfin, il y a des nouvelles choses qu'il faut rencontrer, mais on le fait à budget constant. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, en gros, on habille Pierre, et de l'autre côté, on déshabille Paul, parce qu'on désinvestit sur d'autres politiques. Et donc, et ça, ça passe par un élément, mais qui dépasse l'enjeu de la discussion aujourd'hui. Mais tant qu'au niveau de l'Union européenne, on ne décide pas de se doter des moyens, c'est-à-dire d'une capacité budgétaire propre, et une capacité budgétaire propre, ça veut dire une capacité fiscale aussi, et bien tant qu'on ne fait pas ça, on travaillera avec des bouts de sparadrap. Alors, il vaut mieux travailler avec des bouts de sparadrap qu'avec rien du tout, mais ceci dit, il faut savoir quand même qu'à ce moment-là, on ne fait que de la réparation très, très limitée.
Merci Claude. Il nous reste quand même quelques minutes. Est-ce que je peux proposer aux participants à la salle, si vous avez une question à adresser directement à Claude Rollin, d'en profiter pour les quelques minutes pour lesquelles il sera encore avec nous. Quand tu disais là tout de suite, c'est pas la préoccupation du jour quand on parlait des moyens. Ça l'est quand même toujours un petit peu pour toutes les personnes qui travaillent dans les associations à lire et écrire ou autres associations. En fait, il y a quand même fondamentalement une question qui se pose, à savoir, un, on ne sait toujours pas combien parce qu'on n'a pas évalué, mais on sait en gros 12 à 15% des populations des pays industrialisés pourrait être compté parmi les personnes qui devraient pouvoir bénéficier d'une action d'alphabétisation. Mais par ailleurs, déjà aujourd'hui, les financements ne sont pas suffisants que pour rencontrer une demande qui n'est pas boostée. Elle existe, mais elle pourrait être davantage travaillée, elle pourrait être encore beaucoup plus émergente, auquel cas aujourd'hui, les dispositifs ne sont pas suffisants, ni en termes de ressources, ni en termes de moyens, pour répondre. Une disposition comme celle-là viserait, dans le fond, à identifier les X% des populations en Europe qui ne rencontrent pas ces compétences de base, et du coup, mettre en demeure, enfin, ce ne sera pas une directive, mais quand même, avoir une politique qui incite les États à rencontrer cette demande qui déjà aujourd'hui ne peut pas être rencontrée, mais je laisse à Sylvie le soin de compléter.
Pour donner un ordre de grandeur au niveau des proportionnalités et des moyens, puisqu'elle est fondamentale, donc on est sur une estimation, donc je parle au niveau CEB, hein, je ne parle pas du niveau secondaire, donc on est quand même sur une estimation de 300 000 à 700 000 adultes en Fédération Wallonie-Bruxelles, selon qu'on considère les personnes qui ont le seul CEB ou qui ne l'ont pas. 300 000, 700 000. On est sur 15 000 places de formation. Le dernier recensement du nombre de refus d'entrée en formation, donc des demandes spontanées, c'est 5 000 sur 15 000. Et donc, ce qu'on voit très fort avec les politiques d'activation, et c'est bien l'enjeu, et c'est bien la question de la violence institutionnelle, donc, à partir du moment où on dit qu'il y a une garantie de formation pour les compétences, si on n'aimait pas les moyens, on va être de nouveau sur des publics cibles qui vont devoir obligatoirement aller en alphabétisation, ce qui se passe maintenant, qui éjecte des gens qui veulent faire de l'alphabétisation parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc à un moment donné, c'est les effets sont très concrets sur les personnes et sur les opérateurs. Et donc, par rapport à peut-être il y a 4-5 ans, on devient vraiment dans des situations de violence institutionnelle qui s'exercent tant sur les associations, surtout sur les travailleurs de première ligne, que sur les apprenants. À moyen constant, tout en continuant à dire qu'il faut que tout le monde soit formé et accès aux formations de base. Donc on devient dans des situations schizophréniques et qui sont vraiment dommageables.
Oui, mais donc, je vais dire, là, enfin, ce n'est pas vraiment une question, donc je ne peux que partager le constat qui est fait, et tout à l'heure, si je disais, ce n'est pas le sujet, on pourrait consacrer, c'est un débat important, de comment on se met en capacité d'avoir une Union européenne qui soit réellement une Union européenne et qui ait des moyens. Enfin, j'évoquais le budget, il faut bien se rendre compte que le budget de l'Union européenne, c'est un tout petit peu moins de 1% du PIB. Je fais une référence au budget fédéral américain, on est de l'ordre de 25 à 26% du PIB. Et donc avec 1% du PIB, on demande à l'Union européenne de faire de la politique agricole commune 35%, je pense à peu près, du budget, de faire des fonds structurels. Et puis au-delà de ça, de gérer la problématique des réfugiés, de faire de la relance économique, de faire de l'investissement, etc., etc. Enfin, il faut être sérieux, tant qu'on est dans ce schéma-là, pas grand-chose n'est possible. Enfin, c'est une évidence. Et donc, il faut, si on veut sortir, et je vais prendre un autre exemple, par exemple, qui n'a rien à voir avec la formation, qui a à voir avec l'investissement. Je vais faire court. De toute façon, je dois faire court. Jean-Claude Juncker, à juste titre, fait le constat qu'on a un problème d'investissement en Europe. Il a raison. Il met en place un plan d'investissement 300 et des milliards. C'est quoi le plan d'investissement? C'est j'utilise quelques sous de réserve que j'ai dans les tiroirs, je les mets en garantie et j'appelle du capital privé et je garantis quelque part l'investissement du capital privé pour qu'il puisse oser faire ces investissements-là. Alors le reproche qu'on fait à Jean-Claude Juncker, enfin au plan Juncker, à juste titre, c'est de dire « Oui, mais attends, c'est pas comme ça qu'on va relancer l'économie et c'est pas vraiment sérieux. » Ce reproche est tout à fait correct. Il faut beaucoup plus. Ceci étant dit, quand on est dans la quadrature du cercle dans lequel il est et qu'on ne touche pas aux moyens, effectivement, le président de la Commission, quel qu'il soit, s'il veut relancer les investissements, il est obligé de se transformer en magicien. Et les coups de baguette magique, on sait, ça marche dans les cirques, mais c'est beaucoup moins évident dans la réalité. Et donc, si on ne modifie pas l'enjeu des moyens, on ne changera, enfin, on n'arrivera pas à faire ce qui est écrit dans les textes et dans de belles déclarations, et ça fera que les gens, globalement, de plus en plus de citoyens, se détourneront du projet européen, parce que c'est aussi ça qui se passe malheureusement aujourd'hui. Et ce que je dis est vrai pour l'Union européenne, il est vrai aussi pour les différents niveaux de pouvoir. Hein, il n'y a pas qu'au niveau européen, hein, les politiques sociales d'ailleurs, les politiques d'éducation, les politiques de formation sont malheureusement, comme d'autres, des compétences marginales au niveau de l'Union européenne. Ce sont d'abord et avant tout des compétences qui sont laissées aux États membres ou en tous les cas à la façon dont ils s'organisent. Voilà, en m'excusant encore, en vous priant de m'excuser en tous les cas, mais là il n'y a rien à faire. Ceci dit, le débat auquel je vais m'amuser entre guillemets maintenant n'est pas non plus sans lien avec les enjeux que vous évoquez aujourd'hui, parce que la dérégulation, parce que c'est à ça qu'on assiste, la dérégulation du marché du travail, et je suis pas, moi j'ai beaucoup de plaisir à voir des Polonais ou des Roumains venir travailler, j'ai aucun problème, pas du tout avec ça, mais aujourd'hui on est de plus en plus dans un marché du travail complètement dérégularisé, où on est sur l'acerbation des concurrences entre les États, des concurrences entre les gens. Et ça, de nouveau, c'est en train de créer aujourd'hui un terreau fertile pour les idées populistes, les idées d'extrême droite, les idées de rejet du projet européen. Et les premières victimes sont les gens les moins favorisés dans la société. Donc c'est ça que je vais essayer un peu de travailler cet après-midi. Mais Marie, on aura encore du travail même ensemble là-dessus.
Bonne chance.
Merci Marie.
Un grand merci Claude Rollin qui a passé un peu de temps avec nous et ce que les associations peuvent souhaiter, c'est que tu sois le porte-parole de ces préoccupations et questions, en les défendant, évidemment. C'est le rôle du monde associatif, hein, c'est d'interpeller ses représentants pour faire passer des messages.